1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus
claire? Good morning, Vietnam!
Are you drinking?
No. Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. On laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je te passerai ma tête.
C'est cool, ça va arriver les voisins.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez les Décadrés sur PFM 99.9.
La radio libre et son pub.
Comment ça va Antoine?
Bah, est-ce que j'ai l'air de pas bien aller?
Ça va très bien.
Ah bah franchement ça va, je peux
ça a l'air
fait. Bah ouais, je suis en forme, carrément.
Et Ange, comment il va Ange?
Très bien.
Ah
oui, ah, il est tout mignon.
Donc vous écoutez les Décadrés, c'est-à-dire Ange, Antoine et moi-même Benjamin sur PFM. Et aujourd'hui, une émission spéciale sur les allées du cinéma
spécial
vers le jeu vidéo.
Exactement.
Bah oui.
Spécial.
On vous a déjà parlé ici des rapports des jeux vidéo et du cinéma, notamment lors de l'émission consacrée à la soirée du Cinémovida, elle-même consacrée à ces rapports. Précisément, on vous a parlé des adaptations de jeux vidéo au cinéma, même si nous avons évoqué à quel point le cinéma avait contribué aux formes de jeux vidéo. Hein. On avait beaucoup parlé du déplacement du médium du jeu vidéo vers celui du cinéma, alors qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de l'inverse, c'est-à-dire du déplacement du film vers le jeu. Non, nous ne discuterons pas brutalement du comment le cinéma a contribué aux jeux vidéo.
Parce que ce serait long et
Star
chiant.
Star Wars et Tron. Oui, bah, il faut faire ça de manière plus rigolote.
Oui, bien sûr.
Oui,
il ne s'agira pas pour chacun du coup d'entre nous ou l'un d'entre nous de faire un historique général.
Puis en 30 minutes, on n'aurait pas le temps.
Brutal, encyclopédique, trop complexe et pas ou passé du coup de ce rapport particulier.
Oui.
Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chacun d'entre nous va vous parler d'un jeu en particulier,
oui,
lié par sa nature de produits dérivés à un film. Parce que c'est des produits dérivés. Produit direct dérivé du cinéma, l'adaptation d'un film en jeu vidéo est possiblement une nouvelle écriture. Sinon, une nouvelle lecture du film. Prenez Rambo jeu vidéo, The Video Game.
Quel
sorti,
jeu
sorti récemment, qui est un rail shooter revisitant la trilogie originale.
Récemment? Sérieux? Il n'est pas sorti il y a déjà 2-3 ans?
Ouais, 2013. non, 2014, pardon.
Il est quand même mal vieilli.
Ouais,
en 3 ans, il a quand même mal vieilli en 3 ans.
Il était déjà vieilli à l'époque.
Ouais, ouais.
Donc c'est un rail shooter qui est un jeu où on vise et on tire alors que notre bonhomme avance tout seul.
Comme House of the Dead.
Voilà, on a donc
Crisis.
Une lecture très limitée du personnage et des limites. Du personnage donc, qui se limiterait qu'à des tirs et de la part d'un tordu d'ailleurs virtuellement mal reproduit par des développeurs feignants.
C'est un mauvais jeu d'arcade.
On reconnaît pas Stallone surtout.
Non, c'est même plus mauvais qu'un. C'est vraiment enfin un jeu d'arcade avec une pseudo-histoire quoi. Enfin,
voilà, c'est affreux mais c'est ça.
Ouais.
Le jeu est une lecture des films limitée et un pur produit dérivé censé attirer les fans de la franchise et des jeux de tir.
C'est ça.
On est d'accord. Nous avons aussi des adaptations de films qui réinterprètent, réécrivent les films pour proposer un scénario tout autre et parfois plus intéressant et jouissif. Je pense à Wolverine Origins, qui était vraiment pas mal, avec
c'était
un
super.
Gameplay intéressant. Ouais. The Amazing Spider-Man.
Oui, sympa aussi.
Plus fada que le film. Ouais. Et des
à
jeux...
jouer sur PS4, hein. Ça vaut vraiment le coup sur PS4. Hein.
Et des jeux qui cherchent à capter l'expérience du film de manière vidéoludique, au point de créer des formes dans le jeu vidéo, des formes de jeu vidéo, et... ou plutôt même d'apporter parfois des formes du cinéma dans le domaine du jeu. Alors on pense au premier Star Wars qui nous emmenait dans les tranchées de l'étoile de la mort, donc les premiers jeux Star Wars, dans la bataille finale du tout premier film réalisé par Lucas en 77, donc les joueurs prenaient le point de vue à la première personne, des pilotes ou des becs de vaisseau. Vous vous en souvenez?
Ouais, moi je m'en souviens, comme si c'était hier, j'y étais.
À l'inverse...
Mais tu étais partout.
Mais moi je suis partout, à chaque émission j'y suis moi.
À l'inverse de ça, on avait des jeux, on a des jeux qui peuvent être des réinterprétations d'univers, des œuvres à part basées sur une même licence. Alors on pense au Batman de Rocksteady, on pense au Mad Max d'Avalanche.
Ouais.
Toutefois qui est connecté au Fury Road de manière un peu étrange.
Ouais, il n'y a pas vraiment, enfin c'est plus l'univers de Fury Road qui est là, mais c'est pas vraiment l'histoire.
Il s'agirait d'une réinterprétation en même temps d'un prequel, c'est très bizarre.
Ouais, après ça aurait pas beaucoup de sens avec l'histoire
c'est
qu'on a
étrange.
Au cinéma, mais on peut voir ça comme un... Ouais, comme je sais pas, un espèce de... Je sais pas comment on pourrait voir ça, mais vous pouvez nous le dire sur internet, sur la page Facebook, comment il peut être le
film. Parfois, le produit dérivé n'en est pas tout à fait un,
voilà,
et devient une œuvre à part. Donc, ce rapport très particulier peut aller bien plus loin lorsque le jeu vidéo est un médium parmi tant d'autres contant des histoires dans un même univers. On pense à Star Wars, à Marvel, à Alien, donc des univers qui sont construits par le cinéma, les jeux vidéo, les comics books, les jouets, les romans, bref, bah, les produits dérivés, quoi. Et les jeux dépassent alors le simple statut d'objet dérivé pour devenir une œuvre à part entière, produite, exécutée et promue avec des outils dignes du cinéma. On peut penser au diptyque Star Wars, le pouvoir de la force, qui se passait entre l'épisode 3 et l'épisode 4, vous en souvenez ?
Ouais,
donc
j'y étais.
Saga... Il nous contait une histoire inédite avec des nouveaux personnages et quelques anciens, Vador et l'Empereur. On avait aussi le droit à des lieux emblématiques de la saga, l'Étoile de la Mort,
oui,
en construction. Et là, je vous entends crier nostalgie. Et oui, en effet, ces jeux...
Nostalgie !
...ont une tendance...
It's music only.
...à jouer sur notre nostalgie ou sur le fanservice.
C'est vrai, ouais.
Et là, le concept de produit dérivé reprend son sens. Bon, c'est pas que je veux pas monopoliser la parole, mais j'aimerais bien que mes compères se mettent un peu à jacter. Et c'est Antoine qui va prendre la parole et nous parler de...
Ah bah je vais pas le dire tout de suite. Mais c'est vrai Benjamin, tu as raison, okay, nombreuses furent les adaptations de films en jeux vidéo. Il arrive parfois que même certains jeux soient meilleurs que le film. On peut penser par exemple, comme tu disais tout à l'heure, à l'excellent et fun Wolverine, un beat'em all nerveux et au combo super bien animé, ou encore le jeu Catwoman que moi j'avais chopé quand j'étais gamin sur GameCube et qui m'a vraiment laissé un très très bon souvenir par rapport au film que j'ai préféré complètement oublier. Alors, comme vous en doutez, hein, je vais vous parler évidemment d'un super-héros.
Oui.
Alors, petit indice, il porte des collants, possède un humour et une chance insolente, et le prénom de l'homme sous le costume s'écrit comme pété. Alors, qui c'est ?
Peter Parker.
Exactement, oui. Spider-Man, plus précisément, le jeu éponyme Spider-Man 2, sorti le 2 juillet 2004 en France, édité et développé par les studios Treyarch et Activision. Alors, Activision, c'est par exemple les Call of Duty, enfin ouais, voilà.
Treyarch, c'était aussi les Black Ops,
c'était,
et
voilà,
les Lego.
C'est ça, exactement. Merci Benjamin de cette petite intervention. C'est professeur Benjamin, petite pause. On devrait faire un jingle pour les petites interventions comme ça, ça pourrait être rigolo. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le premier jeu Spider-Man qui sort sur console. Il y en a eu des tas d'autres, comme par exemple le Spider-Man, les deux Spider-Man sortis sur PlayStation 1. Il y a eu, qui offrait un gameplay plutôt riche en termes de combos et une histoire plutôt bien tissée.
Bravo.
Jeu de mots en plus. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment pas mal. On était vraiment très proche du comics et aussi du dessin animé qui sortait.
Ouais,
enfin, que si vous vous souvenez, on pouvait regarder sur TF1 à l'époque, sur TFou, et qui passait à 10h30, je m'en souviens parfaitement. Et il faut savoir que Spider-Man 2 n'est pas le seul jeu à avoir bénéficié d'une adaptation, puisque le premier film Spider-Man également a eu le droit à une adaptation en jeu vidéo,
ouais,
sur PS2, okay. Spider-Man The Movie, un opus sympa qui reprenait le gameplay des anciens jeux Spidey sortis sur la PlayStation 1. Mais alors pourquoi j'ai décidé de vous parler Spider-Man 2
sorti sur PlayStation 2?
Il est sorti sur PlayStation 2, pardon.
Ouais.
Mais en fait, ce que je voulais dire, ce que je disais, c'est justement le gameplay, c'est le même que celui sorti sur PlayStation 1.
Oui, exact.
C'est exactement le même gameplay, en beaucoup plus fluide et plus poussé. D'ailleurs, le premier était assez propre. Hein. Moi, je le trouvais très très propre et les graphismes étaient vraiment corrects. Enfin, je reviendrai dessus plus tard. Alors, pourquoi Spider-Man 2 ? Parce que Spider-Man 2 est un jeu que je qualifierais d'étrange. Attention, étrange. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Au contraire, pour la première fois, nous incarnons le tisse-toile dans un monde ouvert. La ville de New York nous est servie sur un plateau d'argent. L'histoire suit de loin celle du film et propose également de combattre contre d'autres méchants qu'Octopus. Alors, par exemple, il y a Mysterio qui sera au rendez-vous. Et également le Shocker, qui est un méchant qu'on ne voit pas souvent, mais qui est assez charismatique, qui est un peu un rival sans cesse de Spider-Man parce qu'il le croise souvent. Le Shocker, c'est un cambrioleur qui a des gants électromagnétiques.
C'est souvent le premier méchant d'ailleurs.
C'est ça, ouais. Et en fait, le Shocker a des gants électromagnétiques. Il est très très dangereux. Il peut balancer de l'électricité et également des ondes d'énergie.
Ouais.
Donc en fait, le Shocker, le mec est un petit génie qui a bricolé un costume très moche.
Ou qu'il l'a volé.
Moi, il me semblait qu'il l'avait fait faire fabriquer. Enfin bref, on fera des recherches là-dessus pour vous, chers auditeurs. Et là, pour ceux qui n'ont encore jamais joué au jeu Spider-Man 2, vous allez vous dire, mais ce jeu, il a l'air trop bien. Non mais sérieusement, c'est génial. On peut faire ce qu'on veut. Les possibilités sont infinies. Et là, je dois vous avouer que oui, c'est super cool. Il y a rien d'autre à dire. Le jeu est vraiment super. Fini de tisser sa toile dans les nuages. Ici, il va falloir un point d'ancrage pour pouvoir avancer, virevolter le tisseur. Malgré une prise en main, certes, qui n'est pas évidente au début, eh ben, on prend vite le coup et on crie notre bonheur d'avancer dans la grosse pomme new-yorkaise de toile en toile. Et puis ensuite, eh ben, il y a le retour à la réalité. Effectivement, parce que oui, c'était trop beau. Parce que le principal défaut de ce jeu, bah, je suis désolé de le dire, mais c'est ses graphismes. Eh oui.
J'ai trouvé quand même plutôt pas mal à l'époque.
Ah non, je suis désolé, parce que tu prends le premier Spider-Man qui était sorti, Zimovi, d'un point de vue graphisme, ils se sont nettement plus cassé le cul que sur le deuxième.
Ça n'a rien à voir, là, c'est un
peu vert. Ah oui, non mais justement, et d'où le rapport, parce que New York, bah, même si c'est super de d'être dans New York, eh bah, la définition et la résolution des buildings, par exemple, n'est pas très belle. Les passants dans la rue sont immondes, se ressemblent tous, et les doubleurs sont absolument nuls en fait. Enfin,
si, t'as le doubleur officiel de Tobey Maguire.
Ouais, mais t'as l'impression qu'il sait pas où il est, hein. Moi j'ai pas l'impression qu'il était en train de doubler Spider-Man.
Non, j'ai l'impression qu'on lui a dit, tenez, on vous a des lignes de dialogue.
Non, mais c'est ça. En fait,
il était pas devant l'image.
Ouais, moi j'ai imaginé en fait qu'il lui avait donné le script pendant qu'il faisait le doublage du film. Tiens, tu veux pas rajouter ça, s'il te plaît.
Tu sais, j'imagine bien en train de boire son café, tu dois dire trois lignes là, je t'enregistre. Ok, d'accord.
Non, mais oui, mais enfin voilà, c'est les petits défauts du jeu. Mais au-delà de ça, on pourra aussi constater que l'animation de Spider-Man est vraiment bien foutue et que sa maniabilité lors des phases de combat se veut variée et rythmée, même si des fois bah, c'est un peu incohérent dans les déplacements de combat, mais c'est quand même une expérience rythmée avec le tisseur. Alors, donc un jeu étonnamment attractif, mais bourré de... Enfin, pas bourré de défauts, mais avec quelques défauts. Et cependant, si Spider-Man 2 est en effet beaucoup moins léché d'un point de vue graphique que son grand frère, eh ben, il n'en est pas moins fun, puisque nous incarnons pour la première fois, l'une des premières fois, un super-héros dans un monde complètement ouvert. Et c'est exactement ce qui colle avec ce personnage qui est toujours en vadrouille. Il est dommage que le jeu n'ait pas su nous proposer quelque chose de plus novateur en termes de scénario et de graphisme. Cependant, la démarche de l'époque n'en fut pas moins novatrice, et les développeurs ont été assez malins pour tenter le coup. Et moi, je trouve que ça s'applaudit. Et pour conclure, et avant de vous laisser vadrouiller sur votre petite PS2 pour jouer à ce jeu qui, je suis sûr, vous donne très très envie, je ne dirai qu'une chose qui a tout de même son importance. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Joué.
Bravo,
et
bravo.
On se laisse sur le thème de Spider-Man 2 qui est présent donc dans le film de Sam Raimi. Ça, c'était la BO du film Spider-Man 2 de Sam Raimi, qui est juste qui fait partie de l'un des meilleurs de la trilogie. Enfin, c'est
un des meilleurs films super-héros.
Voilà, l'un des meilleurs films super-héros, l'un des meilleurs de la trilogie. Et c'est parce que moi, ça, clairement, c'est mon préféré. Bon, c'est à titre personnel. Et maintenant, nous allons enchaîner sur notre ami Benjamin, qui a les mains moites. Il transpire. On sent qu'il a beaucoup sué pour écrire ce papier et qu'il a dû souffrir, n'est-ce pas?
Ouais, tu sens que j'ai boui.
Ouais, Alors je vais te laisser présenter le jeu. Je vais pas en dire plus.
Donc, je vais vous parler d'Alien Colonial Marines, sorti en 2013, développé par Gearbox Studio, Timegate Studio, Nerve et Demiurge Studio.
À tes souhaits.
À l'écoute de ce simple titre, je vous entends frémir. certains de curiosité parce qu'ils sont des fans d'Aliens, de James Cameron ou même de la franchise en général, d'autres parce qu'ils ont déjà joué, ou plutôt parce qu'ils se sont torturés à jouer à ce jeu. Comment résumer ce jeu, mon petit montage ?
Dwayne X, TQ40482159SOS.
On aurait dit Bella. Elle est... Il y avait un truc entre nous, voilà.
Quel genre de truc ?
Un truc sexuel. Et fous-moi la paix, putain.
Voilà, voilà. J'espère que mon petit montage aura été assez explicite.
Bah,
pour
c'est
vous.
Une bonne mise en matière.
Hein. Du shoot, des aliens qui sont dégommés par dizaines tant ils sont cons, des dialogues de cons, des doubleurs français de haut niveau et des incohérences monstrueuses servant un fanservice monstrueux, une nostalgie à gerber. Bienvenue à Jurassic World. Ah non, pardon, dans Alien Colony.
Ah, est-ce que ça sert vraiment le fanservice au final hein?
Ah bah, si, il y a des fans qui ont apprécié.
Ah bon.
Bon, parce qu'ils sont un peu, voilà.
On a tous le droit d'être dans le déni, hein, voilà, pas de soucis.
On a le droit d'être soumis. Bon, alors soyons un peu plus précis. Le jeu est censé être la suite du film de James Cameron, donc Aliens, Alien 2. On est à Marine Coloniale, d'où le titre, réveillé à bord d'un vaisseau de guerre galactique à l'image du Sulaco de film de James Cameron, vous vous souvenez. Sulaco, c'est un truc qui ressemble à un fusil. Et justement, vous devez aller aider une équipe de Marines qui en chie à bord du Sulaco. Pourquoi ils y sont d'ailleurs? On sait pas. Enfin, si, on va le savoir. Alors, parce qu'ils ont intercepté le message de détresse du vaisseau. Et ils se rendent compte que tout le monde est mort, ou presque. Ils cherchent donc à savoir ce qui a bien pu se passer sur ce vaisseau.
Non, parce que des gens morts dans un vaisseau, c'est embêtant.
Voilà, qui était en orbite de la fameuse planète où est apparu pour la première fois le vaisseau alien et ses nombreux œufs dans le Alien de Ridley Scott.
Exactement.
Puis, dans le deuxième volet, où une colonie a connu la mort et qui s'est ensuite chargée des Marines du vaisseau, donc la mort qui les a tous butés. Donc,
la mort.
C'était dans Alien 2, ça. LV 426, c'était le nombre de la planète, qui n'est pas la planète de Prométhée, je tiens à le redire parce qu'il y a des fans qui ne comprennent pas. À la fin d'Aliens, la planète s'est pris un apocalypse nucléaire des familles. Vous vous en souvenez ?
Oui, je m'en souviens.
Ripley a buté la reine en l'envoyant dans l'espace comme elle l'a fait pour le xénomorphe du premier volet, puis elle a mis la petite Newt en dodo artificiel, elle a mis son allié Love Interest X aussi en dodo artificiel, et elle a fait de même pour elle. Bref, big dodo. Dans Alien 3, on découvrait que le vaisseau avait eu un big problème, que l'un des trois avait un alien dans le bide et qu'en fait, c'était pas le collègue X, parce qu'il était mort, il s'est pris une barre dans le... Il s'est fait transpercer. Ni la fille qui est décédée, elle s'est noyée dans le cryotube. Mais Ripley, bim ! Alors, on va passer sur les nombreux problèmes techniques du jeu. Oh, puis non, on va y revenir vite fait pour le plaisir. Si certains veulent me dire que c'est... Oh bah, pour moi les graphismes ils sont beaux. Je leur dirais, arrêtez de nous faire chier avec vos goûts, on vous parle technique. Et comme l'a dit un grand homme, Antoine Vandepute, ici présent, vous pouvez mettre de la chantilly sur de la merde, ça n'en restera pas moins de la merde. Plus sérieusement.
J'aurais bien voulu que tu me préviennes avant de le citer comme ça, je sais pas pourquoi je vais passer maintenant.
Il y a des droits d'auteur aussi.
Plus sérieusement, un personnage qui traverse un mur ou reste bloqué en l'air, ou encore tirer 1000 fois et voir ses balles ne jamais toucher l'alien devant toi, ni un mur. Ou encore, quand tu passes à travers le sol pour être bloqué dans un abîme virtuel, ça dépasse le goût, mes cocos. Bah, c'est juste pas fini mal développé.
Bah ouais, mais moi, tu vois, par exemple, le jeu Le Parrain, il y avait plein de bugs, mais j'aimais bien.
Oui, mais alors là, t'assumes. Graphiquement,
ouais, non, mais, clairement, hein.
Graphiquement, c'est daté à mort, on est d'accord.
Oui,
c'est pas franchement joli, c'est blindé de problèmes visuels.
Le jeu était déjà en retard sur son époque,
c'est
en
clair.
Fait.
Ne parlons pas du comportement des aliens qui sont juste tellement idiots qu'ils en perdent toute leur puissance, tout leur caractère surpuissant et surpassant l'humain rapidement et facilement. Enfin, même terrifiant qu'on avait dans Aliens 2.
Puis même,
c'est une ruche qui vous chopait d'un coup, on le voyait pas venir.
Bah, les aliens n'ont rien à voir avec les aliens qu'on peut avoir dans le jeu Alien Isolation. Hein.
Bah, Alien Isolation, c'est plus basé sur Alien 1.
Oui,
déjà, Alien 2 changeait le truc, mais ça n'a rien à voir avec Alien 2.
Oui, mais l'alien n'est pas con. Enfin,
oui,
il est très intelligent.
On est d'accord. Donc non, ça n'est pas terrifiant, c'est pathétique. Il peut y avoir un plaisir de jeu parce que c'est un FPS, on a des armes, on peut améliorer notre arsenal, on visite des décors phares des deux premiers aliens, dont l'étrange vaisseau nommé Derelict avec les œufs et le Space Jockey, vous vous en souvenez ? Donc le pilote qui fossilisait, qu'on peut voir dans le premier Alien et voir de loin au début du 2. Et là vous vous dites, quoi ? Mais comment peut-on encore les visiter s'il y a eu un apocalypse nucléaire ? Oui.
Voilà, parce que personne n'a la réponse.
Oui, le scénario du jeu est blindé et basé sur des incohérences. La planète n'est pas plus ravagée que ça, le complexe aussi. Cette monstrueuse incohérence mise en place par les équipes de développement, bah, ils leur ont permis de relancer et reconstruire des séquences cultes du film de Cameron et même du premier volet de Scott, ce qui d'une certaine manière permet aux joueurs de les revivre. En plus, on a les thèmes musicaux directement inspirés de la bande-son de James Horner pour le deuxième, que là vous avez entendu, et de Goldsmith pour le premier. Donc il s'agit de bourdes scénaristiques affreuses pour permettre, qui permettent à la nostalgie aux fans de service de vendre le jeu. Voilà, tout simplement, plutôt que de construire une nouvelle œuvre. Non, faisons une suite qui ne fait que visiter les lieux et événements cultes des deux premiers volets. Il y aura même un lien relativement caché fait avec Prometheus, je vous jure. Dernier film en date de la saga réalisé par Scott en 2012. Il est très caché mais il est présent. Même X, l'allié de Ripley blessé à la fin du deuxième est censé être mort au début du 3. Et ben, devinez quoi ? Il est bien vivant ici et bien actif. Le soldat est bien là, il se bat, on comprend pas pourquoi il est là, on comprend pas le pourquoi de sa présence ni le comment, et vous aurez le droit, c'est compliqué. Oui, mon monstrueux alien, c'est bien triste d'avoir droit à un tel naufrage. D'ailleurs, vous ne le saurez jamais pendant tout le reste du jeu. On ne saura jamais pourquoi il est là, X. Vous devrez payer un DLC. Non, c'est-à-dire un contenu additionnel pour savoir comment il est arrivé là.
Salopard.
Oui, aujourd'hui, la nostalgie se paye, l'amour des fans se troque, la passion est devenue l'élément mercantile fondateur des nouvelles œuvres populaires.
Rassure-moi, le DLC, il est on peut l'avoir dans un Season Pass.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y ait un
Season Pass. Il y a même pas de Season Pass.
Faudrait regarder. Ah, mais c'est vraiment une arnaque. Hein. De l'épisode 7 de Star Wars, film à trous qui doit être découvert à coup de roman, à Jurassic World, Nostalgie Brute, la célébration des passions est aujourd'hui continuelle et purement une logique de marché. Et mes derniers mots de cette chronique iront vers les développeurs du jeu. Get away from her, you bitch! Ouais, vous aurez reconnu la réplique de Ripley et c'est tout ce que je pense de vous. Voilà.
Merci beaucoup.
merci Benjamin pour cette critique corrosive et engagée. Qui a... T'as dû boire de l'eau de Javel toi ce matin.
J'ai eu du mal.
Ouais, t'as eu du mal à digérer. Ouais. Ouais. Du coup, on va peut-être passer à quelque chose d'un peu plus cool.
Un peu plus coloré.
Un peu plus coloré, oui. Ouais. Bah, Ange, tu vas nous parler d'un.
Et c'est lié à James Cameron en plus.
Voilà.
Et oui.
D'un film lié à James Cameron et avec des bonhommes bleus.
Avatar.
Oui.
Donc alors attention nuance, je ne vais pas vous parler du moine bouddhiste ninja des quatre éléments, mais bien du schtroumpf Pocahontas, Avatar réalisé par le seul unique James Cameron. Donc petit rappel de l'histoire de ce magnifiquement beau film, Jake, personne à mobilité réduite suite à un accident, se retrouve envoyé dans un programme nommé Avatar sur la planète Pandora, à la place de son frère suite à la mort de celui-ci. Donc en tant qu'ancien soldat, il devra s'infiltrer chez les Navi, les indigènes de la planète, afin de découvrir leur source d'énergie. Mais bien entendu, tout ne se passera pas comme prévu, le menant même à retourner sa veste. Donc grossièrement, si je n'ai pas été assez clair, un businessman américain milliardaire a trouvé un gros gisement de pétrole et veut tout faire pour s'en emparer, quitte à liquider tous les autochtones qui se trouvent autour de sa source. Voilà.
Ce qui n'est pas très gentil. Hein.
Tout à fait. Donc bref, Avatar est un film, disons...
C'est ce qu'ont fait les Américains.
Bah oui, il y a beaucoup de personnes qui le font. Hein,
Cameron l'a toujours dit.
Oui, voilà. Ouais. C'est clairement ça, c'est pour ça que je dis, c'est un Pocahontas.
C'est ça, c'est très bien.
Donc voilà. Donc est un film, disons-le, magnifique visuellement parlant, nous présentant de magnifiques décors, de superbes personnages en images de synthèse. C'est un beau film.
Oui, techniquement, donc, mais... c'est un...
Et le jeu.
Mais qu'en est-il du jeu, justement?
En 3D, d'ailleurs.
Ah oui,
3D. Il est sorti en 3D.
Ah bah, j'ai pas vu. C'est très intéressant, je ne savais pas.
Oui, parce qu'il y a bien un jeu vidéo du film, adapté du film. Il s'agit d'un jeu d'action à monde ouvert dans lequel vous pouvez explorer la planète Pandora en tant que bon petit soldat ou en tant que Navi, puisqu'il nous est possible de choisir notre camp tout comme dans le film. Eh oui. Donc en soi, le jeu est assez basique. Il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne dans lequel vous pouvez incarner le personnage de votre choix, que ce soit un homme ou une femme, pour commencer la même mission que celle de Jake dans le film, c'est-à-dire infiltrer les Navi. Par la suite, il sera possible de garder la forme d'un humain ou d'un Navi selon votre penchant de taille, tout dépend de vous. Ça dépend si vous avez une compensation à faire, c'est comme vous voulez. Donc dans ce cas, comme dans un cas comme dans l'autre, il vous faudra accomplir différentes missions afin d'avancer dans l'histoire avec des libertés, limitées certes, mais qui permet aux joueurs de se promener librement sur la planète Pandora et de profiter du paysage. Il vous est possible de chasser toutes les petites bestioles qui traînent, que vous les ayez vues ou non dans le film. Et c'est ça aussi qui est vachement intéressant dans ce jeu. C'est une ouverture sur l'univers du film qui permet de découvrir des éléments que nous n'avons pas aperçus dans le film, ouais, ou dont nous n'avons pas du tout, ou en fait on en a juste entendu parler. Il y a des bestioles, des fois on les rencontre, on les a jamais vues dans le film, mais c'est vraiment présent dans l'univers, et c'est ça qui est vachement intéressant. Tu découvres encore le film dans le jeu.
Sachant donc, que de toute façon l'univers est encore en voie d'exploration, puisque
il y a la suite qui arrive.
Bah oui, d'Avatar qui arrive. Il y avait, je sais plus si c'était ça, si c'était déjà sorti, il y avait déjà une petite suite ou un entre-deux d'une demi-heure ou je sais pas quoi qu'il avait sorti. Il n'y avait pas une histoire avec ça, ou bien c'était une version longue qui était rajoutée, je sais plus du tout. Je sais que j'avais entendu parler d'un truc comme ça à une époque, et j'ai jamais pris le temps de vérifier, mais ils arrêtaient pas de parler d'un entre-deux peut-être, ou bien même d'une suite, mais genre d'une demi-heure sur le film, ou bien un rajout dans le film. Il y a une version longue hein, déjà du film cinéma, ça c'est sûr. Donc je sais pas si c'est ce rajout qui est dans la version longue en fait. Donc voilà, des défis sont un peu parsemés sur la plupart des zones que vous pouvez explorer, ajoutant un peu de challenge au jeu et de piment, et vous poussant à explorer au maximum les possibilités du jeu. Possibilités portées par un graphisme que j'ai trouvé, à la base quand j'y ai joué, c'était genre à la sortie du jeu, 2009, j'avais trouvé ça pas mal sur Xbox 360, c'était très coloré, très beau. Certes, c'était pas non plus exceptionnel pour l'époque, mais... on redécouvrait vraiment les paysages, et ça envoyait quand même du lourd pour moi. Parce que je vous précise tout de suite, moi, mes évolutions de graphisme, c'est passé de la Nintendo 64 à la Xbox 360. C'est-à-dire que l'évolution, elle était nette. Hein. Pour moi, Avatar, c'était quand même super beau.
Ah bah oui.
Donc après, je t'avais montré des vidéos sur Internet.
Puis j'avais joué au jeu aussi, et moi, je me souvenais qu'il n'était pas moche, mais il y avait déjà beaucoup mieux qui avait été fait en termes de graphisme.
Ben,
et ça a un peu vieilli, malheureusement.
Ben, c'est vrai que quand j'ai re-regardé les vidéos de gameplay là, récemment, parce que je n'ai pas rejoué depuis longtemps, c'est vrai qu'au final, il a pris un coup de vieux d'un coup, et c'est pas top, mais c'est quand même beau. Tu vois.
Mais de nuit, c'était super, il me semble.
Ah oui, t'as toutes les petites lumières, les petites lucioles qui passent et tout, c'était magnifique. Puis surtout,
en 3D, c'était magnifique.
Ah bah 3D je sais pas, mais
c'était un joli gadget.
Quand tu jouais le rôle d'un navi, c'était vachement beau, parce qu'au final les navis ils sont un peu, à certains endroits ils sont un peu fluorescents, donc du coup c'est vachement sympa à voir. Donc pour moi c'était c'était du graphisme remarquable, et oui parce que je me perds dans tout ce que je dis. Donc voilà, la végétation se présente quand même vive en couleur dans ce jeu, et ça tient la route encore, même pour l'époque. Donc moi en tout cas je me suis bien amusé sur ce jeu qui peut se jouer en moyenne en 6-7 heures, même plus si vous souhaitez faire l'histoire des deux côtés de faction, parce qu'en fait c'est possible au moment où vous devez choisir votre camp, la partie s'enregistre à ce moment-là, et en gros vous avez deux parties qui s'enregistrent. Donc vous gardez le même personnage, et au bout d'un moment vous pouvez changer tout à fait et prendre côté navi, côté humain... Donc ça, c'est vachement intéressant. Tu peux, à tout moment, faire des choix et repartir. Même si t'es navi, au bout d'un moment, je crois que si je me trompe pas, tu peux revenir vers le côté humain au bout d'un moment. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. Ça te laisse des ouvertures sur vraiment toute l'histoire. Ouais. Donc t'as plein de choses à découvrir, et il faut y jouer vraiment longtemps pour découvrir l'entièreté de l'histoire. Donc il est possible aussi de jouer en ligne. Donc il était possible, je précise, parce que maintenant il n'y a plus personne qui se balade sur le serveur. Mais de toute façon, c'était pas terrible non plus. Le combat à 16, c'était pas génial, quoi. Mais bon, si vous voulez vous balader un peu sur Pandora, c'est déjà une bonne expérience, et ça permet de découvrir vraiment le film encore plus. Et peut-être que des éléments présents dans le jeu nous annoncent des choses qui vont se passer dans le 2. Voilà, c'est tout pour moi sur Avatar.
Eh bien,
c'était très intéressant.
Ouais, c'était très instructif.
Je pense qu'on va se quitter aujourd'hui, donc on va terminer cette intéressante émission sur les jeux vidéo produits dérivés du cinéma. Sur la musique d'Avatar, il me semble.
Tout à fait.
Voilà.
Regarde, elle est lancée. Ça nous laisse une petite ambiance pour dire au revoir à tout le monde.
À la semaine prochaine.
Les décadrés 99.9 sur BFM.
Et Mixcloud.
Et Mixcloud. Et aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook, Les Décadrés.
À bientôt.
À bientôt.